Radio Jenny, la plus rebelle des radios. Caesar, hear me, the merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well, the end's well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not king here. I don't know about tomorrow, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. That boy, your caller, do it as you like. You much ado about nothing, what you do is buy it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire.
Bonsoir.
Bonsoir.
Wow.
Nous sommes le 24 janvier, il est mercredi et comme il est aussi 19h05 et 30 secondes, c'est très largement l'heure du Canu Info.
Puis c'est l'un des derniers jours avant qu'on soit submergé par le Rhône et la Saône.
Et ce soir, nous allons commencer par parler de l'attaque turque à Afrin.
Ensuite, on parlera d'usagers contraints pris en otage par les matons grévistes.
On continuera un petit peu sur les prisons. Et puis, on parlera d'un procès pour des slogans criés en manif. Et oui, c'est en France et c'est même à Lyon que ça se passe. Global Voices, c'est un média
dont on parlera.
Dont notre camarade a envie de nous parler. Et puis à Bure, les 3 et 4 mars, tout le monde est invité à un petit week-end de discussion sur l'avenir de la lutte et les bonnes stratégies pour la gagner. Bolloré, vous avez déjà entendu parler, oui, mais vous n'avez pas toujours entendu parler que en bien, sauf que les gens qui ont essayé de vous en parler en mal se retrouvent très très systématiquement en procès. On parlera du concept des procès bâillons. Et puis, il semble que le centre de rétention de Vincennes soit une vraie passoire. On verra ça un peu plus en détail et on s'en réjouira un peu plus en détail. Et enfin, on reviendra sur cette info qui nous dit que les riches sont de plus en plus riches.
Et après, on dira non à l'ouverture d'un local fasciste à Chambéry.
Ah, je n'étais pas au courant de ça.
Et donc l'opération nommée par la Turquie Rameau d'Olivier, hein, cyniquement nommée Rameau d'Olivier, continue. L'armée turque, assistée de rebelles syriens, pilonne la région d'Afrin. Le but de l'armée turque, hein, c'est bien de dégager les Kurdes de cette région dirigée par le YPG. YPG qui signifie Unité de Protection du Peuple, groupe politique et armé proche du PKK. Donc ça fait...
Tu peux rappeler où est cette région-là, c'est pas en Turquie, c'est du côté de la Syrie.
Tout à fait, c'est ça. Alors je finis un truc et après je vais repositionner un peu tout ça, parce qu'effectivement ça a son importance. Mais juste pour rappel, la position d'Erdogan depuis le début de la guerre en Syrie est assez clair. L'ennemi principal dans la région, c'est les Kurdes bien avant Daesh, avec qui d'ailleurs la Turquie, hein, pour Daesh, a sciemment fermé les yeux, voire plus, à des fins stratégiques, hein, notamment durant la bataille de Kobané, où les militaires laissaient clairement passer des personnes djihadistes de Daesh. Alors ils laissaient passer de la Turquie à Kobané, qui est aussi à la frontière turco-syrienne, djihadistes qui allaient combattre les Kurdes à Kobané. Alors voilà, donc pour situer Afrin, c'est donc au nord-ouest de la Syrie, le long de la frontière turque. Donc voilà, donc la Turquie et la Syrie sont frontaliers par le nord là. Tout le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie se trouve la région du Rojava, faisant partie intégrante du Kurdistan syrien. En gros, depuis la guerre en Syrie, les Kurdes ont réussi à garder, négocier une bonne partie de ce territoire et d'en créer une zone autonome. Erdogan, qui voit les Kurdes uniquement donc comme une menace, et que ce soit sur son territoire ou sur les territoires voisins, n'a qu'un seul but, éradiquer toute velléité d'indépendance, et donc pour lui la région autonome du Rojava constitue une menace car il craint que ça réveille les volontés d'autonomie du Kurdistan turc, volontés qui n'ont jamais été en sommeil jusque là. Voilà, alors Afrin est donc situé tout à l'ouest de la frontière turco-syrienne. Et un peu seul, pardon, car l'armée turque occupe une partie du territoire du Rojava, occupant ainsi la région, coupant la région en deux, pardon, avec d'un côté donc Afrin et de l'autre jusqu'au bord de l'Euphrate, juste avant Kobané. Vous voyez, ça fait qu'il y a Afrin d'un côté, une bonne zone, une bonne bande de terre occupée par l'armée turque, et Kobané et pour la partie la plus célèbre, et encore tout à droite là vers l'est.
Et ça, c'est une zone où il y a d'autres forces armées kurdes. Voilà. Kobané.
Qui sont aussi donc voilà, sous dirigés par le YPG et tout ça. Sauf que pendant longtemps, eh ben, Afrin était protégé par la Russie. Alors protégé directement, indirectement, c'est, tout ça, c'est, un peu, enfin, c'est, voilà, c'est une zone de guerre, c'est un peu compliqué, des stratégies d'alliance stratégique, alliance politique, enfin voilà. Mais en tout cas, il s'avère que la Russie avait une base dans cette région, qu'elle contrôlait tout le trafic aérien. Donc en zone, en temps de guerre, hein, il ne s'agit pas de contrôler les Airbus remplis de touristes, hein, c'est plutôt voilà, les avions militaires. Donc ce qui empêchait la Turquie d'attaquer par les airs. On sait que dans ce conflit, la Turquie et la Russie sont plutôt proches et discutent sont en discussion constante, voilà. Mais voilà, donc après moult négociations, la Russie retire sa base aérienne d'Afrin, ce qui a fait un peu comprendre aux gens de la région de se dire « Ouh là là, ça sent pas bon pour nous », ce qui a donc laissé la voie libre à la Turquie de pouvoir bombarder cette région. Du côté de l'Occident, on est un peu emmerdé, enfin, j'ai un peu emmerdé avec beaucoup de guillemets, hein. Parce que donc les États-Unis et la France ont d'un côté la Turquie qui a promis à l'Europe, hein, on se souvient, de prendre un max de réfugiés en échange de plein de pognon. Vous vous souvenez, ça a été des tractations assez stratégiques de la Turquie qui a réussi à se positionner un peu dans le conflit comme ça en disant voilà, nous. En gros, on accepte des réfugiés, vous nous filez du pognon et surtout vous dites rien sur tout ce qu'on est en train de faire avec les Kurdes et tous dans cette région. En gros, vous fermez les yeux et on s'occupe de votre problème des réfugiés. Et d'un autre, ils ont quand même les Kurdes qui ont largement participé à la libération des villes comme Raqqa, alors aux mains de Daesh. Donc voilà, les Kurdes épaulés par la France et l'armée américaine. Donc voilà, donc ce qui a eu pour conséquence, hein, que Paris et Washington appellent, je cite, Erdogan à la retenue sur ses offensives militaires.
Donc, voilà. On peut saluer un courage d'exception
voilà.
Dans cette invective.
Niveau soutien, hein, bon bah. À côté de ça, ça paraît un peu faible, mais quand même, mine de rien, alors on sait pas à quel point ça avait fait pencher la balance, mais en tout cas, ça avait apporté un peu de baume au cœur aux combattants. Mais on se souvient des manifestations qu'il y avait eu à Kobané, donc là, j'en profite pour dire que à Lyon, samedi, il y a un rendez-vous samedi à 15h au métro Broto pour dénoncer ces attaques. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut en phase de bombardement, mais voilà, ça vaut quand même toujours le coup d'aller y faire un tour, quoi. Full time to be down with OPP. Ain't nothing wrong, but he got caught with the HIV now. No life to live, Doc says two more years. So after the laughter, I guess comes the tears.
Alors, généralement, quand il y a des mouvements de grève un petit peu importants, on entend beaucoup les médias qui nous parlent des usagers pris en otage. Généralement, les usagers qui sont pris en otage sont en réalité des gens qui conservent une certaine liberté d'aller et venir. Mais là, on en est au 12e jour de grève des surveillants pénitentiaires et on n'entend pas parler des usagers pris en otage globalement dans les médias. Alors que bon, ceux-là, pour le coup, eh ben, effectivement, c'est des usagers contraints du service public. Les prisonniers, en l'occurrence, qui, eux, n'ont quand même vraiment pas tellement la possibilité d'échapper aux conditions qui leur sont faites globalement, et là, en particulier, qui leur sont faites en temps de grève des surveillants. L'OIP s'est quand même intéressé à savoir comment ça se passait. Donc l'OIP, l'Observatoire International des Prisons, s'est quand même intéressé à savoir comment ça se passait dans les tôles pendant cette grève des surveillants. Et ben, vous allez voir que c'est quand même pas la joie, quoi. Et donc, l'OIP, dans un texte qu'ils ont rendu public aujourd'hui, nous parle par exemple de prisonniers qui sont confinés deux jours comme deux nuits en cellule. Donc, ils peuvent éventuellement être trois dans 9 mètres carrés. Alors, d'habitude, il y a des promenades, il y a des possibilités de sortir, etc. Là, en ce moment, il n'y a que dalle, vu qu'il n'y a pas de personnel pour ouvrir les portes. Donc, 24-24 dans la cellule, éventuellement trois dans 9 mètres carrés avec un matelas par terre parce qu'il n'y a que deux lits. C'est un peu à ça que ça ressemble. On parle aussi d'un blocage du fonctionnement de la prison, donc activité suspendue, douche, bien sûr les douches n'étant pas dans les cellules, et c'est comme il y a plus personne pour accompagner les prisonniers, pas de douche, pas de promenade. Les rendez-vous divers et variés, que ce soit médicaux, juridiques ou quoi, annulés. Communication avec l'extérieur coupée. Cantine non acheminée. Alors quand on parle de cantine dans les prisons, c'est ce que les prisonniers peuvent s'acheter avec la thune qu'ils ont. Mais c'est-à-dire que c'est globalement les produits d'hygiène qui sont quand même extrêmement peu fournis directement par la prison. Des denrées alimentaires qui leur permettent de manger autre chose que la bouffe dégueulasse. Et le tabac aussi, tout bêtement. Ça veut dire que les prisonniers en ce moment, effectivement, ils ont du mal à toucher leur tabac.
Voilà, il faut bien que tu rappelles que ça fait...
Ça fait 12 jours. L'accès au téléphone est encore plus restreint qu'à l'ordinaire, voire impossible. Dans certains établissements, les courriers ne seraient plus distribués, ou alors avec un retard important. Aujourd'hui, raconte un détenu dans un message qu'il envoyait à l'OIP, nous avons été enfermés totalement et nous n'avons eu qu'un léger repas à 16h30. C'est-à-dire que finalement, les prisonniers sont aussi affamés. C'est quand même bien de ça qu'il s'agit. Et les effets de la grève sont aussi immédiats pour les gens qui sont à l'extérieur des prisons, mais qui sont en lien avec les prisonniers. Dans la plupart des établissements bloqués, les parloirs et les rencontres en UVF, c'est-à-dire les unités de vie familiale, ont été supprimées. Alors les unités de vie familiale, c'est des endroits où les familles des détenus peuvent les visiter et vivre 24 heures dans une sorte de petite maison ou de petit appartement à l'intérieur de la prison. Bon, c'est ce qui a été mis suite au long débat sur les parloirs intimes, qui seraient des endroits où les prisonniers pourraient avoir des relations sexuelles avec les personnes qui viennent les visiter. Et là, en l'occurrence, ce qui finalement existe dans des endroits, c'est un truc où vraiment leur femme ou leur copine ou quoi peut venir, même avec les gamins. Donc voilà, ça existe, mais là, en l'occurrence, c'est supprimé. Sauf que, bien sûr, c'est supprimé au dernier moment. C'est-à-dire que là, on a des familles qui font la route, et quand on dit la route... Alors on sait aussi que les prisonniers sont facilement et régulièrement transférés d'un endroit à l'autre, d'un bout à l'autre du territoire français, et que donc vous pouvez bien avoir tous vos liens familiaux à un bout de la France et être emprisonné à l'autre bout de la France. Donc là on parle par exemple d'une famille qui a fait 650 km pour, pensait-il, partager 24 heures en UVF avec leurs proches qui étaient incarcérés. Après une journée d'attente à l'extérieur de la prison, donc attente dehors, la pluie, le vent, etc., aucune information fiable sur la possibilité ou non de rentrer dans l'UVF. Finalement, le soir, toujours pas de possibilité d'accès, ils ont dû passer la nuit à l'hôtel, en espérant que le lendemain ça serait possible, parce qu'on leur avait laissé entendre que peut-être, mais le lendemain, en fait, non, rentrez chez vous. Donc 650 bornes de chez eux, quoi. Enfin, rendez-vous médicaux, extraction vers les hôpitaux bloqués, traitements non distribués, et en tôle, il y a quand même des paquets de gens qui prennent différentes sortes de traitements. À Nantes, au Havre, à Rion, des soignants ont tiré la sonnette d'alarme. Toutes les activités, rendez-vous ou soins ont été annulées car aucun personnel n'a pu entrer, y compris dans les bâtiments administratifs. À 11h, deux infirmières ont fini par être autorisées à accéder aux zones de détention pour distribuer des médicaments, témoigne un intervenant. Les malades psychiques et toxicomanes doivent sacrément souffrir, dit-il. J'espère qu'il leur reste du tabac. Mais donc, a priori, c'est quand même pas du tout sûr. Et voilà, et ben dans un contexte où alors les établissements arrêtent pas de dire « Oh, la tension, il y a de plus en plus de tension, c'est pas facile, blablabla. » oui, apparemment, ils se font agresser quand même de plus en plus, et là, depuis le début du mouvement, il y a de plus en plus d'agressions, mais peut-être aussi que, comment dire, les uns sont un peu en lien avec les autres.
Ah non, j'ai pas de musique, pardon, j'étais en train de faire autre chose. Vas-y.
Voilà, tu te grattais le trottinet. C'était juste pour rebondir sur l'OIP, donc l'Observatoire International des Prisons, qui nous rappelle dans un petit article que on a des niveaux de détention records pour l'Europe déjà, et puis on atteint des niveaux de détention qui sont inégalés depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, il y avait une espèce de ça avait décru, jusqu'à, je crois, 20 000 détenus dans les années... peut-être 50, 60, un truc comme ça. Ouais. Et là, on est arrivé au chiffre de 70 000 personnes qui sont détenues. Donc après, je veux dire, à un moment donné, les problèmes qu'on imagine, ils sont liés aussi au fait qu'il y a vraiment trop de monde en prison. Et voilà, le nombre de personnes détenues a été multiplié par 2,3, nous dit l'Observatoire international des prisons, ces 40 dernières années. Voilà. Alors, dans le même style, on parle que des matons, mais il y a l'ONG Confluence qui s'est dit, mais attendez, on parle des matons en ce moment, mais moi je vais vous sortir un rapport, et du coup ils ont sorti un rapport aujourd'hui, que moi j'ai trouvé sur le site Basta, qui parle de la prison des Baumettes, donc du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. Alors je vous lis un peu l'introduction. La promiscuité et les conditions sanitaires déplorables y entraînent violence, suicide, maladie, dégradation de la santé mentale des détenus et grève de la faim. Typique de l'inhumanité des prisons à l'ancienne, le bâtiment historique doit être détruit et remplacé par Baumettes 3, installation moderne et digne, soi-disant, selon les autorités, sauf qu'ils ont construit aussi Baumettes 2, qui a été ouvert en mai, et les conditions de détention posent de gros problèmes. Alors juste précise, et on va reparler après, Baumettes 2, ça a été construit par Vinci. On va reparler de l'aspect, de l'aspect business autour des prisons. Alors juste donc, Confluence, c'est une ONG qui, j'ouvre les guillemets, agit pour la promotion et la défense des droits humains, et qui a dévoilé donc un rapport. Elle a interrogé un peu, elle a fait une enquête en plusieurs parties, donc entretien avec des familles en attente de parloir, ensuite rencontrer des personnels pénitentiaires, et enfin jusqu'à décembre ils ont recueilli des témoignages d'intervenants, donc toujours sur les Baumettes. Alors dans le bâtiment historique, c'est simple, il y a des rats, des cafards, des punaises de lit, il y a même des vers dans les flaques d'eau croupies. C'est la responsable de cette ONG qui nous dit ça, elle hallucine, quoi, entre guillemets. Dans le nouveau bâtiment, alors chaque cellule est équipée d'une douche, mais en fait l'eau est brûlante en été et elle est gelée en hiver. Voilà. Et dans certains bâtiments, dans certaines parties du bâtiment, il fait en été une chaleur suffocante. Donc on parlait d'usagers qui est pris en otage, c'est plutôt des otages, quoi. Les détenus du bâtiment historique, ils doivent par exemple désormais emprunter un long couloir pour aller au nouveau bâtiment, pour accéder aux soins, aux parloirs et aux autres services. Donc en fait, avec tous les niveaux de sécurité, ça peut prendre jusqu'à une demi-journée l'aller-retour. Donc ils sortent, et puis il y a une demi-journée de contrôle, de passage de voilà, pour arriver éventuellement au parloir, et puis il n'y a pas assez de personnel visiblement. Enfin bon, c'est assez terrible, etc. Donc je vous laisse consulter ce rapport de Confluence. Et puis ce rapport il termine par ça, on aime bien. La France est championne d'Europe. Ça plaît, ça. Le côté numéro un de la France. Alors, la France, donc les Baumettes aussi sont numéro un. Donc, les Baumettes sont le centre pénitentiaire français dans lequel on compte le plus de suicides, à égalité avec Fresnes. Donc, on a un taux de 13,6 suicides pour 10 000 détenus. La moyenne européenne, c'est 8. Voilà. Donc c'est particulièrement horrible dans les prisons françaises. Voilà, un autre article qui mérite d'être ressurgi, qui s'appelle « Quand les prisons, les détenus et la politique carcérale deviennent des produits d'investissement ». Je vous l'ai dit, la prison, c'est Vinci qui l'a construite. Voilà. Par exemple, je vous lis un petit peu l'introduction de ce papier. En France, plus d'un tiers des prisons sont en partie gérés par des grands groupes privés. Le mouvement de privatisation du système carcéral, entamé il y a 3 décennies, prend toujours plus d'ampleur, de la gestion des repas à l'accueil des familles, de la construction des maisons d'arrêt, on l'a dit, au travail pénitentiaire. Une poignée d'entreprises se sont saisies de ce nouveau marché lucratif. Donc lucratif, c'est-à-dire que tu fais du pognon. C'est-à-dire que si c'était réalisé par l'État, ça pourrait avoir le même coût, mais pour une entreprise lucrative, si ça a le même coût, il faut en rajouter une certaine couche, parce qu'il faut dégager du fric. Voilà. Donc en général, on sait les coûts, etc. Donc l'État débourse près de 6 milliards d'euros par an pour payer les services sans que les bénéfices d'une gestion privée soient démontrés, ça on s'en doute. Alors cette phrase est intéressante. Cette privatisation rampante pose une autre question. Les entreprises privées ont tout intérêt à ce que les prisons ne désemplissent pas. Voilà. Donc si vous êtes un prestataire de repas pour les prisons, si vous avez donc, comme en 2007, 68 432 personnes à nourrir, c'est mieux que si vous en avez 20 000. Donc c'est pour ça que
il y a quand même une information de DRH ça, qui te fait parler.
Bah quoi, oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Mais c'est juste pour préciser que voilà, il y a des collusions entre le business et les prisons.
Et pour rebondir juste sur ce que tu disais par rapport à Baumettre 3, il y a quand même dans la région là, on a l'exemple de Lyon-Corba là, qui est la prison qui a remplacé la prison ultra vétuste et toute pourrie de Saint-Luc Saint-Joseph. La prison de Perrache, quoi. Et du coup, il s'est quand même avéré que le taux de fuite avait largement augmenté parce que, notamment, c'était une prison ultra moderne et qu'il y avait tout un tas de trucs, que les portes s'ouvraient par toute seule, machin. Et en fait, il s'avérait que les détenus étaient hyper isolés dans leur cellule. Alors, il s'agissait pas pour eux de revendiquer le droit d'être 10 par cellule, mais plus de dire qu'en fait, alors certes, les conditions d'hygiène étaient mieux et personne s'en plaignait, mais qu'il y avait un truc réellement de contact social qui était perdu encore plus qu'avant, et qu'avant, certes, c'était pourri, mais au moins, il y avait un peu plus de, je sais pas quoi, de relations. N'étant jamais allé en prison, c'est compliqué de décrire un peu ces trucs-là, mais voilà.
Mais en tout cas, effectivement, il y a un paquet de témoignages de prisonniers qui, quand ils ont déménagé de Perrache, étaient ravis de se retrouver dans une prison où il y aurait certainement moins de rats et de cafards, et qui, au bout de quelques jours, dans la nouvelle prison, avec une envie, c'était de retourner à l'ancienne.
Et en plus avec les trucs dont tu parlais tout à l'heure, là, notamment les séries de contraintes techniques et de fouilles, tout ça, pour passer d'un bâtiment à un autre qui durait des plombes et des plombes.
Voilà, ça fait quand même penser au pire, enfin au meilleur, c'est selon, roman d'anticipation quand même tout ça.
Yeah, check this shit out. Know what I'm saying? It's dedicated to all my hoes.
Tout le monde déteste la police. La police assassine, la justice acquitte, ou même tout simplement justice pour Adama, justice pour Mehdi. C'est les trois slogans pour lesquels la belle-sœur du Mehdi en question est aujourd'hui poursuivie devant les tribunaux pour outrage à la police nationale. Et donc, c'est des slogans qu'elle a criés en manif.
Des slogans qu'un paquet de gens ont crié en manif.
Qu'un paquet de gens ont crié en manif, et en l'occurrence, ce jour-là, qu'un paquet de gens ont crié avec elle. Donc, revenons sur l'histoire de ce Mehdi, déjà, puisque c'était une manif en mémoire de Mehdi. Donc, Mehdi, c'est un gars, dans la nuit du 10 au 11 décembre 2016, il rentrait chez lui en scooter, avec deux potes. Il venait de fêter la naissance de sa fille. Et à ce moment-là, une voiture de flic les a pris en chasse. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi à ce moment-là. Elle les a collés avec la bagnole. Ils ont collé le scooter. Et puis, jusqu'à ce que le scooter tombe. Et là, accident mortel pour Mehdi. Les deux autres potes qui étaient avec lui se retrouvent à l'hosto. Donc, les flics ont immédiatement commencé par donner plusieurs versions. Quand la famille a voulu porter plainte, et ben les commissariats ont refusé les uns après les autres de prendre la plainte, ce qu'ils sont théoriquement pas censés faire. Enfin, ils sont pas censés pouvoir refuser. Ils ont fini par arriver à déposer plainte à la gendarmerie de Givors, mais à ce moment-là, c'est le procureur qui a donné pour consigne de ne pas enquêter. Donc, a priori, il y a un non-lieu. Enfin, il y a eu un non-lieu. Les flics ne sont responsables de rien. Mais la décision du non-lieu, elle a été dite par le tribunal, mais elle n'a pas été notifiée à la famille. Ce qui fait que tant que le non-lieu n'est pas notifié, la famille ne peut pas faire avancer le machin. Et donc, la suite, ça serait se porter partie civile, avoir accès au dossier. Et puis, ça serait demander la nomination d'un juge d'instruction pour obtenir une véritable enquête. Et l'enquête, ça pourrait être analyse du scooter, de la voiture de flic, du rapport d'autopsie, interrogatoire des différents témoins, tout ce qui n'a pas du tout été fait pendant cette première soi-disant enquête. Et donc les flics ont même réussi à dire à la famille de Mehdi, donc, qui venait de mourir, que l'expertise du scooter serait bien trop chère et que c'était pour ça qu'ils ne la faisaient pas.
Par exemple, dans les trucs qui peuvent valoir le coup, là, par rapport au procès d'Adama, à l'enquête d'Adama Traoré, la famille avait exigé que l'enquête soit dépaysée. Ce qui voulait dire que, en fait, ce soit pas les flics qui sont, en l'occurrence, dans ces affaires-là, du coup, de fait, les principaux concernés. Et du coup, ce soit d'autres flics qui enquêtent sur les
pratiques. Et que ça soit pas non plus les magistrats qui bossent tous les jours avec les flics. Voilà. Qui sont accusés dans l'histoire.
Donc ça a quand même une une bonne importance sur le sur ce truc-là.
Tout à fait. Bon alors là, du coup, là-dessus, bim bim, un comité vérité et justice pour Mehdi, bim bim, manifestation. Donc Mehdi est mort au début décembre 2016, le 28 janvier 2017, manif, avec entre autres sa famille, mais du coup il y avait plus ou moins 150 personnes. Ça partait de l'endroit de l'accident jusqu'au commissariat de Marius Berliet, et donc les manifestants et manifestantes demandaient l'ouverture d'une enquête. Les flics, dont beaucoup en tenue de maintien de l'ordre, étaient à peu près aussi nombreux que les manifestants. Un peu après la dispersion de la manif, plusieurs équipages de la BAC viennent mettre un coup de pression aux derniers manifestants, et donc les derniers manifestants, c'est surtout la famille de Mehdi. Donc là, ils les chopent, ils font un contrôle d'identité collectif, ils menacent de les embarquer, finalement ils ne les embarquent pas. Mais quand même, quelques jours plus tard, deux proches de Mehdi qui s'étaient fait contrôler à ce moment-là, donc une cousine et sa belle-sœur, sont convoqués au commissariat pour une audition. Finalement, seulement la belle-sœur va être poursuivie pour outrage à la police nationale. C'est le chef d'inculpation lors de la manifestation. Et donc, il ne s'agit pas d'insultes, il ne s'agit pas ni d'insultes jetées directement à des flics, ni de quoi que ce soit où elle aurait accusé un flic en particulier. Hein. C'est bien la police nationale. Et donc, c'est les trois slogans dont on parlait. Alors, attention, parce que l'outrage, c'est quand même... Bon, tout le monde déteste la police. Outrage, ok. La police assassine, la justice acquitte. C'est aussi des paroles de chanson. Ouais. Mais alors surtout, le fait que le suivant soit considéré comme un outrage à la police est particulièrement révélateur quand même, puisqu'il s'agit, et il y a vraiment ça dans l'acte d'accusation, hein, où on peut voir le petit extrait sur l'article sur Rébellion. Donc un outrage pour la police, c'est justice pour Adama, justice pour Mehdi. Ça, c'est un outrage à la police. C'est dire quand même ce qu'on considère comme le boulot normal de la police, quoi. Et donc voilà, l'article sur Rébellion dans lequel je trouve tout ça nous dit ceci. Avec l'état d'urgence, on a eu droit aux perquisitions administratives arbitraires sur simple dénonciation citoyenne. On a eu droit aux préfets qui interdisent des manifs quand bon leur semble, sur comme ça, leur seule décision. On a eu droit à des policiers qui viennent remettre en main propre des interdictions de manifester à des opposants trop virulents. Désormais, depuis la normalisation de l'état d'urgence, cette histoire de l'état d'urgence qui est passée dans la loi, la répression se fait de plus en plus forte, notamment envers toutes celles et tous ceux qui osent critiquer la police et son impunité. Ainsi, en novembre, à Clermont-Ferrand, ça a été un rassemblement en mémoire de Wissam El Yamni. Donc on se rappelle que lui aussi, c'est quelqu'un qui est mort suite à sa rencontre avec des flics. Et donc là, il y avait un rassemblement en sa mémoire, un rassemblement qui avait été dûment déposé en préfecture et qui avait été déposé par le maire de Clermont-Ferrand en personne. Eh ben, ce rassemblement a été interdit par la préfecture. Le 20 janvier, c'est à Vienne, donc juste là à Vienne. Marche blanche pacifique en mémoire de Joaille, décédé 2 mois avant alors qu'il fuit un contrôle de police, la marche blanche est interdite. À Beaumont-sur-Oise, Adama Traoré, bon tout le monde voit à peu près qui est Adama Traoré, une manif et à la suite de la manif, des frères d'Adama sont incarcérés. Donc ce 26 janvier, le parquet de Lyon franchit un nouveau pas en s'apprêtant à traîner devant la justice une manifestante, membre d'une famille de victimes de la police, pour des slogans qui par ailleurs ont donc été lancés par 150 personnes pendant la marche blanche. Voilà. En tout cas, rassemblement et conférence de presse devant le tribunal de la rue Servian. C'est ce vendredi, au moment où elle passe en procès, ce vendredi à partir de 14h, et repas de soutien au comité à l'atelier des canulars le même vendredi à 19h30. My baby's mothers, you know what I'm saying? All my bitches, you know what I'm saying? I'm gonna tell y'all motherfuckers something. Y'all motherfuckers want this money, bitch? You better earn this motherfucking money. Bitch, let me show you something. My name Dirt Dog, bitch, ain't no frontin'. Bitch, let me show you something. My name no dog, bitch, ain't no frontin'. Bitch, let me show you something. My name Dirt Dog, bitch, ain't no frontin'.
Donc,
c'est à toi. Global Voices.
Ouais, j'avais envie de parler d'un média qui s'appelait Global Voices, un média internet. En fait, il s'agit d'une entremise collaborative où en fait des auteurs, des spécialistes, des analystes, des spécialistes des médias en ligne, etc. Et puis surtout des traducteurs, traductrices se retrouvent pour en fait faire une sélection d'articles d'actualité qui sont de l'actualité autour du monde et qui paraissent dans des blogs, dans la presse indépendante, dans des médias. Et en fait, donc, j'ouvre les guillemets, nous travaillons à trouver les histoires les plus intéressantes et les plus importantes en provenance de groupes défavorisés et sous-représentés. Nous prenons parti contre la censure en ligne. Donc il y a un double volet, c'est de voilà d'essayer de parler de ceux qui souffrent et puis aussi de parler de ceux dont on parle pas souvent. Voilà, donc c'est par exemple sur Global Voices que vous pouvez entendre parler du Kyrgyzstan. L'autre fois, il y avait un article sur des nouvelles réglementations de conduite au Kyrgyzstan, avec etc. etc. Voilà. Donc c'est une source assez intéressante. C'est pas toujours, disons, des articles de fond. On va le voir tout de suite après. Hein. Parfois, ça peut être des articles assez anecdotiques, mais néanmoins. Ça permet d'entendre parler d'endroits de la Terre où finalement dont on n'entend pas très souvent parler. Je salue juste un peu leur initiative de début d'année. Ils signalent un petit peu comme nous que 2017 c'était horrible, glauque, mais ils ont essayé de lister une quarantaine de points positifs. Donc ils font référence à 40 articles qu'ils ont évoqués en 2017 sur des choses qui allaient dans le bon sens. Quoi. Voilà. Alors, par exemple, je vais vous donner deux exemples d'articles qui sont passés donc sur le média globalvoices.org, je crois. C'est un article sur une bande dessinée qui s'appelle Dear Woman, an Anthology. Donc en fait, c'est serre, donc la femme serre. Donc ça nous parle des Amérindiennes. Et donc, je cite, les Amérindiennes sont bien plus que d'autres femmes vulnérables à la violence, donc du côté des États-Unis. Une Amérindienne sur trois sera violée au cours de sa vie, et trois sur cinq seront agressées physiquement. Les Amérindiennes sont plus de deux fois plus sensibles à se faire harceler que d'autres femmes, et pire, elles sont assassinées à un taux 10 fois plus élevé que la moyenne nationale. Voilà. Alors, du coup, c'est des statistiques qui sont assez édifiantes et visiblement aussi le silence qui est associé à ces difficultés, pour prendre un euphémisme, vécu par ces Amérindiennes. Donc c'est le silence autour de ça est vraiment assez présent. Et donc en réaction à tout ça, il y a des artistes et des écrivaines amérindiennes qui se sont rassemblées et qui ont essayé de faire une bande dessinée qui raconte, donc c'est une collection de récits en bande dessinée qui donc traite et raconte la violence et qui rend hommage donc à la force et à la ténacité de ces Amérindiennes. Voilà. Donc c'est un bouquin qui s'appelle Dear Woman, an Anthology. Donc c'est pas en français, c'est en anglais, il faut l'acheter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, ça faisait suite à une petite BD de 35 pages qui, elle, est disponible. Il suffit d'aller sur le site en question, de donner votre mail, et puis en fait on vous met un lien pour télécharger donc cette bande dessinée. Donc c'est de nouveau sur cette femme serre, et en fait ça s'appelle Dear Woman, de nouveau vignette, donc femme serre, une vignette. Et donc ça met en scène une Amérindienne qui est survivante d'un viol, et donc elle se transforme en femme serre, et cette femme serre, en fait, c'est une sorte de super-héroïne qui va s'attaquer aux agresseurs et aux agresseurs en puissance. Voilà. Donc la femme serre, c'est visiblement une entité qui existait dans les cultures indiennes. Alors à la fin de cette bande dessinée, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des techniques d'autodéfense pour femmes qui sont présentées avec des dessins. Donc c'est l'organisation Arming Sisters ou Reawakening Warriors, donc armer les sœurs, réveiller les guerrières, donc qui promet l'autonomisation et la défense comme outil de défense, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un article qui est présent. Si vous voulez lire cette BD, elle est disponible donc sur l'édition numérique et gratuite, donc il faut aller retrouver ça, Dear Woman, a Vignette. Voilà, donc ça c'était un premier article de Global Voices. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on parle des Amérindiennes. Alors là, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus léger. On va parler de cette espèce de malotru de Trump. Voilà. Alors, vous vous rappelez que, en fait, donc ça, c'est un article qu'ils ont traduit de médias japonais. Alors, en fait, ils nous expliquent que, en fait, les médias japonais se sont retrouvés complètement désarmés devant le langage raciste et vulgaire de Trump à l'occasion de sa dernière sortie. Là, donc, c'est le jeudi 11 janvier. Il a dit que, en fait, Haïti, El Salvador, des pays d'Afrique aussi, étaient des shithole countries. C'était des pays de merde, quoi. Voilà. Et il se trouve qu'en en japonais, ils n'ont pas vraiment trop su comment traduire ça. Enfin, je suppose que c'est tellement, tellement odieux que, en fait, la presse japonaise n'a pas réussi. Alors, du coup, y a un journal qui a traduit ça par pays sale et malpropre. Il y a un autre journal japonais qui a dit que c'était des toilettes dégoûtantes, parce que du coup ils ont fait un, voilà, des pays sales aussi sales que des toilettes. Il y a un autre journal qui s'appelle Mainichi qui a dit des pays ressemblant à des toilettes.
Kyoto. Parce que la traduction littérale en français serait trou à merde.
Voilà, exactement. En fait, la traduction littérale, c'est un lieu extrêmement sale, miteux ou généralement déplaisant, shithole. Mais en fait, ils ont pris la traduction littérale, la shit c'est merde et trou c'est, comme tu dis, trou à merde. Et justement, il y a la version japonaise de Newsweek qui a dit que c'était des pays extrêmement sales. Ok. Il y a Nikkei, qui est un autre journal, qui a dit que c'était des pays qui étaient des fosses à excréments. La version aussi japonaise, la BBC, a dit aussi que c'était des fosses à excréments, etc., etc. Voilà. Donc, visiblement, le mot qui a été le plus utilisé pour traduire les propos de Trump, c'est le mot clé kudame, qui visiblement a un trou qui a été utilisé par les paysans japonais pour la collecte des excréments pour en faire de l'engrais. Voilà. Donc, c'est juste pour vous évoquer donc le trouble qu'a pu ressentir donc les médias japonais, voilà, qui suggère que la bêtise immense de Trump décoiffe, quoi. Voilà. Donc c'était un des nombreux articles de ce site qui s'appelle Global Voices. Global Voices. Bitch, you know you belong to me. Drove over, say how you be. Bitch, know my name, Dirt Dog, Dirt MC. Dirt Dog, I know what.
Bure, on va recommencer à expliquer que
ça c'est aussi un shithole, ça.
Ça c'est carrément un shithole, mais c'est prévu pour le devenir encore plus, puisque Bure c'est cet endroit dans ce département du Nord-Est, je sais même pas exactement lequel. Où l'ANDRA, l'Agence nationale pour les déchets radioactifs. Veut construire une poubelle nucléaire, c'est-à-dire enterrer ses déchets radioactifs, si possible un petit peu profondément, et puis voilà, qu'on puisse s'en débarrasser comme ça.
Dans un endroit ultra sécurisé, que en fait c'est tellement bien sécurisé, sûr, que c'est super sécurisé, que bon, il peut y avoir des incendies quand même, mais bon.
Oui, c'est ça, c'est que globalement c'est un endroit où normalement ça marche, tant que rien ne bouge, tant qu'il n'y a pas de tremblement de terre, tant que personne ne s'y intéresse, tant que rien du tout, où quand même on parle de déchets nucléaires qui vont être actifs et dangereux pendant des dizaines de milliers d'années, alors qu'on sait, si on lit le dernier CQFD par exemple, on sait que les endroits où on a stocké des obus suite à des obus non explosés suite à la Première Guerre mondiale, on sait déjà plus où ils sont. La Première Guerre mondiale, c'est il y a 100 ans.
Pardon.
Alors vous imaginez que là, on parle de déchets qui vont rester actifs pendant des dizaines de milliers d'années. Il n'y a aucune langue humaine qui a tenu aussi longtemps. Les langues humaines qui étaient utilisées il y a 10 000 ans, on n'est pas capable de les déchiffrer à l'heure actuelle.
Oui, c'était même évoqué très sérieusement cette question de
comment on fait pour signer les endroits.
Pour transférer cette information aux générations futures. Il y avait l'idée de mettre une stèle ultra explicite. Alors peut-être que du coup, si tu mets effectivement de nouveau un shithole, je sais pas, un gros caca et un trou, peut-être que tout
c'est
le monde comprendra.
Mais il faut que ça reste aussi longtemps, parce qu'en réalité, même, je veux dire, ouais, ça existe des bâtiments ou des trucs ou des dessins qui ont survécu plus de temps que ça sur la surface de la Terre, mais c'est pas forcément ceux que les gens avaient prévus au moment où ils les ont faits. Enfin, ça pose quand même un sacré paquet de questions.
Surtout, on imagine bien les archéologues du futur aller fouiller en disant, ah,
Il y a un truc, hop, on va fouiller, on va fouiller. Oulala, c'est bien compris.
Ça sent mauvais.
On va mourir dans pas longtemps. Vous aussi, faites gaffe.
Mais avant de te laisser la parole, continuez. On peut rappeler la logique, hein. C'est, il faut, on a des déchets, il faut les enfouir. On peut pas. Qu'est-ce que vous avez comme solution?
Il faut en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on les balance dans la mer, mais au bout d'un moment, il y a des gens qui râlent que dans la mer, c'est pas top non plus, parce qu'ils sont ballottés par les vagues, parce qu'ils sont coulés dans des machins qui peuvent fuser aussi, longtemps.
Il pourrait y avoir d'autres idées, comme ne pas en produire.
On les balance dans la terre.
Pour ne pas en produire. Voilà.
Mais cette idée-là est relativement peu à la mode autour de la planète, bon un petit peu au Japon quand même parce qu'ils se sont tapés Fukushima et encore
ils ont réactivé je sais pas combien de tout, bah, je crois que tous leurs réacteurs quasiment refonctionnent maintenant. Enfin, je crois qu'il y avait une vague un peu genre anti-nucléaire de fait, mais que le gouvernement a dit bon, tant pis, allez quand même.
Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, plutôt on les active, on crée, on construit des nouvelles centrales tout le temps. On va avoir Super Phoenix qui un jour ou l'autre, bon peut-être dans longtemps parce que le chantier est dur, mais va finir par voir le jour. On exporte le savoir-faire nucléaire jusqu'en Angleterre. Enfin, bref, tout ça est magnifique.
Ah, et Areva a changé de nom, pardon, au passage. ça, Areva s'appelle maintenant... Ah, toi je sais, tu sais.
Ah non, je sais pas sur...
Ah bah alors attendez, vas-y parlez, après je vous donne la réponse.
Ok.
Donc on lance un concours.
Appelez-nous au 36 18 18.
Voilà, quel est le nouveau nom d'Areva?
Et donc voilà, alors à Bure, à cet endroit où on doit construire une poubelle nucléaire, un certain nombre de gens, que ce soit des gens qui y habitent, qui bizarrement ont pas plus que ça envie qu'on vienne enterrer les merdes sous leurs pieds, ou que ce soit d'autres gens qui trouvent que globalement le nucléaire est un problème, un certain nombre de gens s'opposent à cette construction. Et donc ça dure, la lutte est particulièrement active depuis 2 ans à peu près, avec occupation de l'endroit où ça doit se passer, donc le fameux bois Le Jus, avec et en même temps pas mal de répression, d'arrestation de gens qui sont traînés devant les tribunaux, de perquisitions chez des militants, enfin une sorte de harcèlement policier un peu. Mais là, les militants qui sont à Bure, suite au projet, à l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, se sentent un petit peu poussés des ailes. Et donc c'est à ce propos qu'ils nous invitent et qu'ils vous invitent à un week-end de discussion sur l'avenir de leur lutte les 3 et 4 mars. Dans un appel un petit peu long qu'on peut trouver facilement sur leur site, ils nous disent par exemple, dans les axes qui les intéressent, il y a le fait qu'ils veulent rentrer en résonance avec d'autres luttes, d'autres lieux, d'autres rêves, et qu'ils veulent être en lien avec des comités en dehors de chez eux, parce qu'ils voient aussi que c'est ça qui a marché à Notre-Dame-des-Landes, qu'au moment par exemple de l'opération César en 2012, quand le gouvernement socialiste a essayé de dégager les gens à Notre-Dame-des-Landes, il y a eu des réactions, des manifs, des occupations de locaux du PS sur tout le territoire français. Donc ça c'est un truc que les gens de Bure ont envie de développer. Ils nous disent aussi que, alors ils reviennent bien là-dessus, sur le fait que bloquer Bure, c'est pas seulement une histoire de poubelle nucléaire, c'est bloquer la filière nucléaire, puisque ça rendrait impossible le fait de faire quelque chose avec ses déchets, quoi.
C'est important de le dire, mais je trouve dans ces trucs-là, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà du discours genre faut pas le faire chez nous, mais c'est juste faut pas le faire du tout, quoi. C'est pas chez nous, faites-le chez les autres, mais c'est genre on n'en veut pas et on n'en veut nulle part ailleurs.
C'est ça, c'est du coup ils sont là, c'est clairement des militants anti-nucléaires, point, et pas juste des militants pour jardin d'à côté de chez eux.
Pour paraphraser l'association, si c'est bien sortir du nucléaire dont il s'agit.
C'est ça. Et donc ils disent que ça se fera pas en un claquement de doigts. Il faut d'abord sortir de l'apathie et de la résignation qui nous paralysent, relever la tête et reporter ce combat au premier plan des luttes anticapitalistes et écologistes partout. Tant qu'il y aura des centrales et des déchets à gérer pour des siècles ou des millénaires, il n'y aura pas de changement social profond. Il faut quand même dire qu'avec cette histoire de centrales nucléaires qui ont commencé en France dans les années 70, on sait quand même le fait que nos aînés aient perdu ce combat, c'est quand même une sorte d'énorme boulet qu'on a maintenant au pied. Et quel que soit dans le futur, quels que soient les changements sociaux auxquels on va pouvoir arriver, ça nous fait quand même une sorte de machin qui est là et qui est gigantesque et qui est forcément à gérer. Les déchets nucléaires déjà produits, c'est forcément déjà quelque chose de dingue à gérer. Quand bien même on arrêterait maintenant le nucléaire.
Oui, ce serait
ça
pas,
reste vraiment un...
Ce serait pas gagné pour autant, quoi.
C'est ça. Mais comment faire, comment garder le lien entre nous malgré la distance, nos différents contextes de vie, le temps qui passe trop vite, comment se coordonner et agir de concert pour faire reculer le monstre, comment garder le même niveau d'information sur les dossiers techniques, les recours juridiques et les échéances à venir, comment réagir de manière coordonnée à de nouveaux travaux sur place, construire un mouvement suffisamment fort pour mettre en échec toute tentative d'expulsion du Bois-le-Jus d'ici à l'automne 2018. Et donc pour réfléchir à tout ça, pour débattre, se rencontrer, s'outiller, renforcer l'occupation de la forêt, nous invitons tous nos soutiens, individus, associations et comités de lutte antinucléaire à venir se rassembler sur la zone. Et c'est donc le premier week-end de mars. Vous trouverez très facilement toutes les infos sur le site le site VMC comme
et ben du coup hop là
tu as la réponse à notre quiz. Et donc, Areva s'appelle aujourd'hui
Orano Group.
Orano,
c'est une
Group.
Blague.
Ouais, enfin Orano. Donc rien à voir avec Oreo, les biscuits tout aussi transgéniques
et
nucléaires.
Et pour celles et ceux qui l'avaient loupé aussi, l'Institut français du pétrole, qui s'appelle donc l'IFP, ne s'appelle plus IFP, il s'appelle IFP Énergie Nouvelle. Et donc,
pardon,
il n'y a plus de traces du P de pétrole, mais ils n'ont pas enlevé IFP parce que ça devait se faire. Voilà. Donc si vous croisez quelqu'un, vous lui dites tu travailles à l'Institut français du pétrole, il va vous dire bah non, je travaille à IFP énergie renouvelable. Et si vous lui demandez le P, il veut dire quoi? Et ben il dit bah et excuse-moi, faut que j'aille, j'ai piscine. P de piscine.
Qui est IFP, qui se situe pas très loin de chez nous, quand vous prenez l'autoroute pour partir en vacances dans le sud.
Mais c'est très très sérieux cette histoire. IFP, c'est hors de question pour eux de préciser que P c'est pétrole.
Ah bon, alors on arrête de le dire. Ça suffit,
c'est vrai.
Et quand même, juste pour dire pourquoi Areva s'appelle maintenant Orano, hein, c'est un peu comme le RPR qui s'appelle UMP, qui s'est ensuite appelé les Républicains. Vous voyez, c'est à peu près le même truc. C'est-à-dire qu'ils mouillent dans un tas de scandales, dont le scandale Uramine, qui est une histoire de rachat de sociétés au Canada. Bref, avec Anne Lauvergeon, vous vous souvenez, l'ancienne PDG qui s'est fait dégager d'Areva parce qu'elle mouillait dans des scandales. Je ne connais pas tout, donc je ne vais pas vous dire de conneries, mais en tout cas, voilà, allez taper sur un moteur de recherche là-dessus, et notamment aussi les déboires de l'EPR de Flamanville, tout ça, tout ça. Voilà, alors ils ont changé de nom, vrai comme un parti politique, hein, presque.
To my house, open the door, take off your clothes, throw it on the floor, took off my clothes, showed them my dick, bitch, this something that you never forget. On the first punk, she started to scream. On the second punk, she thought she had a bad dream. On the third punk, she started to cry. Dirt dog, I don't wanna die. So shut the fuck up. Pussy ain't nothing but the skin of your bone. You can fuck it, you can suck it, you can leave it alone. 25 cents is the regular price.
On en était au scandale d'Areva, et ben maintenant, on a un autre machin. Ouais. Qui est particulièrement entouré de scandales, mais qui n'aime pas du tout, du tout, du tout que la presse en parle.
Tu vas te faire attaquer.
Non, ouais, parce que c'est... moi, je n'ai pas cité d'un pour l'instant. C'est toi qui vas te faire attaquer. Vas-y.
Voilà. C'est une tribune qui vient de sortir ce matin, en fait, qui s'appelle Face aux poursuites Bayon de Bolloré. Nous ne nous tairons pas. Voilà, parce que Bolloré. C'est un grand industriel, vous le savez, enfin plus exactement un milliardaire qui est millionnaire plutôt, je ne sais pas trop, qui pilote des entreprises françaises et qui est pas, mais alors qui n'a pas du tout envie qu'on dise des choses dans les journaux qui disent que c'est pas un gentil monsieur. Voilà. Donc ça c'est pour le faire pour les enfants. Je vous lis un petit peu cette tribune. Alors c'est demain. Donc
alors, peut-être qu'on peut préciser ce que c'est cette histoire de procès Bayon. C'est un terme qui vient du Canada.
Ouais, et c'est un peu expliqué, mais vas-y.
Un petit peu, mais vite fait dans la tribune quand même. C'est vraiment l'idée que certains groupes peuvent adhément choisir de faire des tonnes de procès à tous les gens qui disent du mal d'eux, y compris si les journalistes, les ONG ont des argumentaires extrêmement prouvables. enfin, des vrais bons arguments et inattaquables, mais sauf que de les attaquer quand même, ça fait de toute façon qu'en les attaquant à répétition, on arrive à leur coûter tellement de temps, d'énergie et de thunes pour aller se défendre devant les tribunaux, que la plupart finissent par préférer lâcher complètement l'affaire.
Voilà, ça rappelle un peu les attaques par déni de service, les attaques informatiques où les hackers sollicitent des serveurs intensément, et puis au bout d'un moment, les serveurs craquent. Donc voilà, effectivement, dans cette tribune, il précise donc ce que sont ces poursuites Bayon, j'ouvre les guillemets, ces procédures lancées par des grandes entreprises multinationales qui sont en train de devenir la norme. Apple, Areva, ou je sais plus quoi là, Vinci, les prisons, ou Veolia ont récemment attaqué en justice des organisations non gouvernementales et des lanceurs d'alerte en multipliant les procédures judiciaires dans des proportions inédites, quitte à les abandonner en cours de route. Le groupe Bolloré en a fait une mesure de rétorsion quasi automatique dès lors que sont évoquées publiquement ses activités, en particulier ses activités africaines. Voilà, donc c'est cette espèce d'attaque par déni de service, de poursuite. Donc je reprends ce texte. En fait, c'est demain. Donc ce jeudi 25 janvier que s'ouvre un procès contre trois journaux, Mediapart, l'Obs et Le Point, et puis deux ONG, Sherpa et React, qui sont attaqués en diffamation par une holding luxembourgeoise et sa filiale camerounaise, donc il s'agit de Socfin et de Socapalm, qui sont un tout petit peu, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure, liés au groupe Bolloré. Et donc, évidemment, Vincent Bolloré, lui, il siège au sein du conseil d'administration de 12 Petits Mondes. Alors, qu'est-ce qu'on reproche, que reproche Bolloré? En fait, il reproche à ses journaux d'avoir fait des articles qui relatent des mobilisations de villageois et de villageoises et d'agriculteurs tristes ouest-africains vis-à-vis de leur révolte contre des exploitations qui sont gérées par ces deux sociétés. Donc, je fais une petite parenthèse. Voilà, le groupe Bolloré est actionnaire à 40% de la Socfim, qui est donc basé au Luxembourg, c'est un hasard, je pense, et qui fait du caoutchouc en Afrique. Et donc, pour faire du caoutchouc, ils font, ils ont une technique très simple, c'est de virer un peu tout le monde et de prendre les terres. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'accaparement des terres. C'est ce qui est reproché à ce groupe Bolloré, faire l'accaparement des terres, de virer, disons, les populations qui existent là et qui ont besoin de ces terres pour de la subsistance,
ouais,
pour faire du business.
Là,
voilà, qui habite là, tout simplement. Et voilà, donc on parle d'accaparement de terre, ça se passe du côté du Cameroun, du Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, entre autres. Et puis, il y a aussi des aspects de pollution des eaux et des rivières dus à ce qui se passe. Voilà. Donc, ces activités ont été décrites et... la Socfin, donc la boîte du groupe Bolloré, dément formellement, j'ouvre les guillemets. Le groupe Socfin n'accapare pas les terres des villageois, on nous la propose ou on la demande. Voilà. Et puis, donc en gros, ça se passe à la régulière. Ça se passe à la régulière, mais vous n'avez pas remarqué que quand vous avez un chien qui fait 2,50 m de haut et un tout petit caniche, en général, à la régulière, c'est quand même le gros qui gagne. Bref, Bolloré attaque de tous les côtés.
Et c'est que les pratiques dont tu parles sont quand même pas mal documentées, puisqu'il y a un paquet de journaux, de radios, de médias en tout cas, qui l'ont relaté chacun à leur manière, voilà, qui sont allés enquêter sur place.
Et donc ce que signalent tous ces signataires de cette tribune, c'est que Bolloré devient un professionnel en fait, de l'attaque en diffamation. Donc depuis 2009, plus d'une vingtaine de procédures en diffamation ont été lancées par Bolloré, juste sur cette partie-là, hein, sur la partie Socfin et donc sur l'Afrique. Là. Et donc on a un peu l'impression que Bolloré est pas très très motivé par la liberté de presse. Peut-être que au final il va attaquer Radio Canu. Faudra peut-être qu'on change de nom.
Du coup, peut-être pas parce qu'il n'hésite pas mine de rien à attaquer des gens relativement balèzes. C'est possible qu'ils nous écoutent pas. Ce que je veux dire, c'est que dans la vingtaine de procédures, ce qui fait une cinquantaine de journalistes, on a quand même France Inter, France Culture, France Info, France 2, Bastamag, Le Monde, Les Inrecuptibles, Libé, Mediapart, L'Obs, Le Point, Rue 89 et des ONG, Greenpeace, React, Sherpa.
Voilà, et c'est vraiment comme on l'a expliqué, il va probablement perdre à peu près tous ses procès, mais l'idée c'est de faire de l'obstruction. Et puis quelque part, quand vous avez un fric pas possible, vous pouvez le perdre dans des actes de justice, puisque de toute façon, c'est un pouillème de votre fortune.
Avec l'idée qu'un jour ou l'autre, plus aucun aucun journal, plus aucune rédaction n'autorisera ces journalistes à bosser sur Bolloré.
Voilà, donc je finis vite sur ce qu'ils nous disent. Nous, collectif journalistes, médias, organisations non gouvernementales, apportons notre soutien aux journalistes et organisations qui comparaîtront donc le 25 et 26 janvier et à tous les acteurs poursuivis dans le cadre de ces poursuites Bayon. Donc c'est le mot du jour, poursuite Bayon. Informer n'est pas un délit. On ne se taira pas, Monsieur Bolloré.
Ah, et alors toi qui hésitais entre Bolloré millionnaire ou milliardaire, je peux te donner la réponse. Bolloré est milliardaire et c'est la 12e plus grosse fortune de France. 12e, c'est quand même pas mal. Ce qui me permet de rebondir pour dire qu'un rapport Oxfam est sorti juste avant le truc de Davos, là vous savez, là où les gros patrons se rassemblent pour donner un peu leur directive et leur vision du futur aux présidents du monde entier. Bref, 82% des richesses ont été captées par 1% des plus riches. Hein, sympa. 50% de la population globale n'a rien touché des bénéfices de la croissance. Hein, la multiplication du nombre de milliardaires entre mars 2016 et mars 2017 crée environ un nouveau milliardaire tous les deux jours. Hein. Voilà, la part de la population plongée dans la pauvreté, elle n'a pas diminué, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chiffre? En gros, en France, 28% des richesses créées ont profité aux 1% les plus riches, alors que les 50% les plus pauvres ne se sont partagés que 5% de cette croissance. Vous voyez à peu près quand même ce que ça crée. Voilà.
Un autre chiffre aussi, c'est sur la part de cette fortune qui est liée au travail, qui est liée à l'héritage. Et donc, c'est une forte augmentation finalement du pourcentage lié à l'héritage. C'est-à-dire que le pognon que tu as, c'est que par exemple en France, il y a 50% de la fortune totale des Français qui est liée à de l'héritage. Donc, c'est vraiment, on se la passe de la main à la main, quoi.
C'est ça. Et en gros, vous pouvez le voir, trouver facilement sur Internet. Les plus grosses fortunes de France, c'est quoi? C'est le luxe, les armes, le luxe, la presse, les armes.
Ouais, c'est beaucoup la presse, en particulier Arnaud, première fortune de France, et les Échos parisiens, le Figaro, BFM TV, etc. Voilà.
Vas-y.
Et alors, on a vraiment plus beaucoup de temps, mais quand même, je vous avais promis de vous parler de ça. Et bon, une petite info qui fait plaisir, c'est pas tous les jours. Depuis le début de l'année, 27 personnes se sont évadées du centre de rétention administrative de Vincennes. Et il faut quand même bien dire que à quelques minutes près, ça n'aurait été que 10, puisque les 17 premiers se sont évadés le 31 décembre, enfin le 1er janvier. Ils sont partis pour leur évasion le 31 décembre à 23h59, puisqu'ils avaient réussi à tirer un badge qui ouvrait les portes. Et qu'ils se sont dit que le meilleur moment pour faire ça, c'était pendant que les surveillants étaient en train de faire péter le champagne. Donc ils ont vraiment hyper minuté leur machin. Au départ, ils étaient 7-8 sur le plan, mais ils avaient rendez-vous à la cantine pour le faire, sauf que petit à petit, il y avait plusieurs personnes dans le centre de rétention qui étaient au courant, et au moment de partir, ils se sont plutôt retrouvés à 17. Bon bah écoutez, vaille que vaille, ils se sont barrés, et la grande majorité sont encore aujourd'hui dans la nature. Depuis, on a eu encore un coup de 6, un coup de 4, qui ont filé un coup de pied dans une porte un peu fort et qui ont réussi à se barrer.
Ben ça, c'est des bonnes nouvelles.
Alors, il faut bien dire que le service de presse du ministère, je pense, explique que des mesures... Ah oui, mais parce que, bien sûr... Allez, je me dépêche. Les quatre... alors, en fait, il y a une nouvelle aile du centre qui a été mise en place. Et qui a été mise en place suite à un incendie. Un incendie allumé par des retenues. Là-dessus, cette aile est quand même pas entièrement terminée. Était prévue, mais à cause de l'incendie, les gens ont été transférés dedans plus vite. Et donc voilà, c'est une des raisons. Et donc le service de presse explique que des mesures de rénovation des locaux sont en cours, mais un fonctionnaire qui préfère garder l'anonymat dit au site Street Press qui nous raconte tout ça: ce centre de rétention, c'est une vraie passoire. Alors je vais juste ajouter un avis personnel, tant mieux.
Et, et il semblerait que les incendies aient un effet ultra positif sur la diminution de la capacité d'accueil, enfin de rétention, pardon, des migrants. On se souvient de la période en Italie où tous les centres de rétention cramaient les uns après les autres, tout ça. Et ce qui avait diminué de trois quarts la capacité de rétention en Italie, ce qui était formidable pour les.
Et on se souvient du grand incendie du centre de rétention de Vincennes qui avait mis un sacré coup d'arrêt aux rafles à Paris au moment où toutes ces places dans rétention avaient été supprimées d'un coup. C'est une période où il y avait extrêmement souvent des rafles à Paris qui visaient uniquement à arrêter des sans-papiers. Ces rafles s'étaient arrêtées d'un coup d'un seul.
Alors loin de nous de vouloir inciter à quoi que ce soit, mais en tout cas à vos briquets. Merci. Alors on laisse la place à Idées Noires avec quelques minutes de retard. À la semaine prochaine.
Ciao.
Merci de nous avoir écoutés.